La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Découverte du métier de journaliste tout de suite sur Info RC. Durant une journée, les secondes G2 du lycée Marcel Gimon ont accueilli la classe de 4e média du collège La Ségalière à L'Argentière. C'était l'occasion de leur faire visiter le lycée que certains rejoindront dans 2 ans. Mais surtout, l'idée était de leur faire réaliser des interviews de journalistes, les 2 classes travaillant chacune de leur côté sur un projet d'éducation aux médias et à l'information. Les documentalistes de ces 2 établissements ont donc invité Hélène Richard du Monde Diplomatique, un journal national mensuel, et Anthony Gonzalez, journaliste au Dauphiné Libéré, journal hebdomadaire local. Ainsi, ils ont pu comparer 2 médias avec des périodicités et des échelles différentes, 2 méthodes de travail. Aujourd'hui, nous retrouvons l'interview d'Anthony Gonzalez du Dauphiné Libéré.
La grande interview.
Une émission de grande classe.
Bonjour et bienvenue dans La Grande Interview, une émission réalisée par la classe 4e média du collège La Ségalière à L'Argentière et les élèves de première du lycée Marcel Gimon à Aubenas. Nous sommes avec Icar, Paul, Nora, Noé, Lola et Anakin et nous interviewons Anthony Gonzalez, journaliste du Dauphiné Libéré. Nous allons aborder plusieurs thèmes avec vous. Pour notre premier thème, nous allons parler de votre parcours. Et je passe la parole à Chloé.
Bonjour. Quel a été votre parcours pour devenir journaliste ?
Alors, mon parcours, si je dois le reprendre à l'époque du lycée, en fait, j'étais dans un lycée à côté de Bordeaux, puisque je suis originaire de là-bas. J'ai fait une classe littéraire, qui n'existe probablement plus aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai fait ma première et ma terminale là-bas. Ensuite, j'ai enchaîné avec une licence en information communication à l'université Bordeaux-Montaigne, où on nous apprend plein de matières différentes, que ce soit la psychologie, le droit. On étudie même les séries télé là-bas, donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai fait un Master 1, toujours en information communication, où j'ai commencé à faire un projet de recherche autour des chaînes d'information continue, et notamment le traitement qu'elles avaient fait des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, pour essayer de comprendre un peu leur manière de fonctionner. Et j'ai passé en parallèle les concours d'école de journalisme, que j'ai pour la plupart loupés. Donc j'ai fait une petite année de pause pendant laquelle j'ai fait un service civique, histoire de me dégager du temps et de continuer à être un petit peu utile. Et là, j'ai passé le concours de l'ESJ Pro de Montpellier, qui est une école en alternance. Et donc j'ai intégré le Dauphiné Libéré en octobre 2019, en contrat pro pendant 2 ans à Privas. Et ensuite, à la fin de mon contrat pro, j'ai été titularisé ici à Aubenas depuis le mois de novembre 2021.
Quelle spécialité du lycée vous conseillerez de faire pour devenir journaliste ?
Alors, des spécialités, je connais plus trop l'offre qu'il y a dans les lycées. Tout ce que je peux conseiller, c'est de faire des petites actions bénévoles si jamais il y a un journal du lycée, si jamais il y a une radio, comme les émissions qu'on réalise aujourd'hui avec ma consoeur Hélène. Moi, par exemple, quand j'étais au lycée, j'ai pas fait quelque chose en particulier. C'est à partir de la fac où j'ai commencé à intégrer Radio Campus, où en fait j'animais une chronique sport pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai été correspondant local de presse pour un journal en Gironde qui s'appelle Le Courrier de Gironde. Donc c'est un hebdomadaire. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir intégrer un endroit dans lequel il est possible de développer soit son goût pour l'écriture, soit son goût pour la radio si on préfère faire de la radio, ou même faire des contenus vidéo si on préfère la télévision ou autre.
Intissa, tu as une question ?
À partir de quel moment vous avez su que vous étiez fait pour être journaliste ?
Alors c'est un peu particulier parce qu'il y a très très longtemps, ça a duré 2 jours, hein, jusqu'à ce que je voie mes notes en maths et je voulais faire astronaute, donc j'ai vite dégagé ça. Et ensuite, bah, tout simplement, mon père travaillait au journal Sud-Ouest. Donc, c'est l'équivalent du Dauphiné Libéré, mais pour la zone géographique de Bordeaux et, de, et des départements aux alentours. Il était à l'impression. Et en fait, à cette époque-là, dans le bâtiment de Sud-Ouest, il y avait l'imprimerie qui était au sous-sol et le bureau de la rédaction qui était à l'étage. Et donc, quand tu visitais en fait, les locaux, tu visites un peu tout. Et moi, j'adorais l'ambiance de la rédaction. Je trouvais que c'était un truc super. Et à la même époque, j'adorais le sport. Il y a un club de football qui bon, est un peu en difficulté en ce moment, qui s'appelle les Girondins de Bordeaux. Et à l'époque, ils étaient plutôt c'était plutôt une bonne équipe. Et en fait, j'adorais les commentateurs qui commentaient les exploits du club que j'aimais. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce métier. Donc, c'est arrivé très jeune. Et ensuite, bah, on affine un peu ses envies. Et autant le sport m'intéressait, autant j'avais envie de découvrir plein de thématiques différentes. Donc voilà, la presse locale, c'était un peu plus... ça me correspondait un peu plus, en tout cas.
Avez-vous trouvé un emploi facilement ?
Alors, c'est un peu particulier parce qu'en fait, quand j'ai passé le concours de l'ESJ Pro, à la base, j'avais plus une expérience en radio puisque j'avais fait Radio Campus. Donc moi, je me tournais plus vers la radio. Sauf que la radio, c'est un milieu qui est assez compliqué parce que en France, globalement, il y a soit de très gros groupes qui n'ont pas forcément besoin de contrats de professionnalisation et donc d'alternants, soit c'est des radios associatives qui n'ont pas du tout les moyens de pouvoir embaucher un contrat pro. Donc quand j'ai fait des recherches, en fait, j'ai pas trouvé du tout. Ce qui fait que je me suis tourné vers la presse écrite et j'ai trouvé facilement parce que je suis tombé un peu au bon moment où le Dauphiné Libéré recrutait ses contrats pro parce qu'ils ont des vagues de contrats pro comme ça qui arrivent. Donc je suis tombé un peu au bon moment. Dire que c'est facile, ce serait un peu présomptueux parce que ça ne l'est pas trop. Moi-même, j'ai vécu pas mal de galères avant d'arriver à devenir journaliste. Je me suis même posé la question à un moment de savoir si c'était vraiment fait pour moi, puisque c'était assez difficile d'intégrer ce milieu. Mais je suis convaincu qu'avec un peu de persévérance, on peut arriver à intégrer ce monde-là, même si on rencontre quelques difficultés. Ouais.
Est-ce qu'il faut faire une école de journaliste pour devenir journaliste ?
Alors non, parce que par exemple, tu as des écoles de journalisme. Déjà, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'écoles de journalisme en France qui sont reconnues par l'État, donc qui délivrent un diplôme qui... normalement, devant un recruteur, un employeur peut avoir un certain impact. Moi, par exemple, l'école que j'ai faite, elle n'est pas reconnue par l'État. C'est une antenne d'une école qui est à Lille qui, elle, l'est reconnue, mais ma formation, elle n'est pas forcément très reconnue. Mais le fait est que j'ai passé 2 ans dans une rédaction, donc quand tu sors de cet endroit-là, tu as 2 ans d'expérience dans un média qui est quand même assez reconnu dans le monde du journalisme en France. Et puis finalement, il y a plein de profils différents qui intègrent petit à petit le journalisme, parce qu'il faut savoir que chaque année, il y a environ 1 millier de cartes de presse qui sont délivrées en France. Les écoles reconnues, elles fournissent même pas la moitié de ces effectifs-là. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres manières d'y accéder. Par exemple, moi, j'ai fait de l'information communication, mais j'aurais pu faire des sciences politiques et me spécialiser dans la politique et devenir du coup plutôt un journaliste politique. On peut faire de l'histoire de l'art, on peut faire plein de thématiques différentes qui, à un moment donné, nous raccrochent à certains... à certaines rédactions si jamais il y a besoin et on peut y rentrer par ces biais-là aussi.
Bon bah merci, nous allons passer à notre deuxième thème qui s'intéresse au métier de journaliste. Alors je passe désormais la parole à Sam.
Est-ce qu'un journaliste travaille beaucoup d'heures ?
Oui, ça travaille beaucoup d'heures. Ce qu'il faut savoir c'est que nous, je prends l'exemple du Dauphiné Libéré, généralement nous on arrive entre 9h et 9h15 pour démarrer la journée. Alors c'est un horaire qui est indicatif parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de contraintes. Par exemple, il n'y a pas longtemps je me suis levé un peu plus tôt pour un sujet parce qu'il fallait aller le couvrir. Tu peux terminer beaucoup plus tard qu'un horaire qu'on peut considérer comme étant convenable à 19h pour le départ. Parce que s'il y a un conseil municipal, un conseil communautaire ou tout simplement un rendez-vous calé dans le planning, on essaye de les couvrir au maximum. Donc les journées ont tendance à être un peu plus longues que ce qu'une journée classique peut nous laisser croire. Donc oui, ça demande quand même pas mal d'heures de travail.
Est-ce que c'est un métier dangereux ou difficile ?
Alors dangereux, je pense pas, parce que je me suis jamais vraiment senti en danger sur un sujet. Il y a certains événements qu'on couvre qui parfois peuvent être dangereux. Je prends l'exemple des incendies qu'il y a eu, c'était l'été dernier, non l'été d'avant, où il y a eu de gros feux autour de Benac que j'ai dû aller couvrir. Alors c'est un moment... plutôt dangereux, mais en fait on est quand même encadré par les pompiers pour pas qu'on fasse n'importe quoi non plus. Donc voilà, après difficile oui, parce que c'est un métier où on est sans cesse remis en question. On reçoit pas mal de retours de nos lecteurs, que ce soit en bien ou en mal. Donc forcément ça nous oblige à nous poser des questions sans cesse sur notre manière de travailler. Donc difficile plutôt, mais disons que je pense qu'on a quand même un métier où on a la chance de rencontrer beaucoup de personnes et d'avoir beaucoup d'échanges, et ça nous nourrit plus qu'autre chose, donc voilà.
Mais donc, quelles sont les qualités et les compétences qu'il faudrait avoir pour être journaliste ?
Alors, je pense que la première chose à cultiver, c'est la curiosité, parce que c'est important d'être curieux quand on va sur un sujet, parce que les personnes qu'on rencontre vont bien vouloir te parler en fonction de ce que tu leur demandes de développer avec toi, mais parfois elles peuvent omettre quelque chose parce que tout simplement elles n'y ont pas pensé ou autre, et c'est important de pouvoir se relancer, la personne avec laquelle tu échanges. Je pense qu'il faut aussi un petit peu de rigueur, parce que c'est un métier où tu sais que tu es exposé en écrivant un article, donc il faut absolument être sûr de ce que tu écris, il faut absolument être sûr de la fiabilité des informations que tu rédiges et que tu mets dans le journal. Donc je pense que c'est les deux principales qualités pour pouvoir faire ce métier. Je rajouterais aussi le fait de vouloir aller vers les gens. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on rencontre énormément de personnes. À force, on les voit régulièrement. Mais dans nos journées, on a souvent des gens qu'on rencontre pour la première fois, qu'on ne rencontrera plus jamais. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller les voir, leur parler, leur expliquer ta démarche. Donc je pense qu'il y a ça aussi à cultiver pour devenir journaliste.
Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'information, vous la trouviez. Comment vous faites pour savoir que c'est une vraie information, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'informations sur les médias et tout, et c'est surtout des fake news. Du coup, comment on fait pour savoir que c'est une vraie information?
Alors nous, le plus important, c'est quand on a une information, c'est de ne pas faire confiance qu'à un seul interlocuteur. On peut avoir une personne qui nous parle d'un sujet, mais après, nous, c'est notre rôle de mobiliser d'autres acteurs qu'on pense être suffisamment au fait du sujet pour pouvoir nous confirmer ou nous infirmer ce qui nous est dit. Généralement, dans le métier, on nous fait comprendre qu'il faut généralement 3 sources pour pouvoir vérifier une information et être sûr qu'elle soit fiable. Après, il y a d'autres techniques, mais on y viendra peut-être un peu plus tard, notamment sur les réseaux sociaux. On peut tomber sur une fake news, mais le plus important, c'est de prendre le recul nécessaire et d'avoir justement la curiosité, ce que j'expliquais à Chloé, pour aller chercher la source de cette information et s'assurer qu'elle soit bien vraie. Donc c'est plein de petits ressorts qu'on a au quotidien et qui nous permettent de savoir si une information est vraie ou fausse.
Quelles sont les règles et les devoirs qui encadrent cette profession ?
Alors nous, en 1971, j'ai pas trop révisé, mais je crois que c'est ça, y a une charte déontologique qui a été rédigée à Munich, qui en fait comporte 10 devoirs et 5 droits, si je dis pas de bêtises non plus. Et en fait, c'est ce qui régit un peu les journalistes et la profession, que ce soit en France ou ailleurs. On a des règles très strictes, notamment de ne pas diffuser d'informations tant qu'on n'est pas sûr de sa fiabilité, le fait de protéger nos sources si jamais il y a un besoin. Il y a aussi le fait de respecter la vie privée des personnes qu'on rencontre ou dont on parle. C'est pour ça que, par exemple, sur certains types de papiers, notamment les faits divers, on prend énormément de précautions pour ne pas empiéter sur la vie de personnes à qui il est arrivé un drame. Donc, généralement, on se base un peu tous sur ces principes-là et on essaye de les appliquer au quotidien pour s'assurer de notre professionnalisme.
Est-ce que ces règles, elles peuvent être contraignantes, du coup ?
Alors, je ne les verrais pas comme contraignantes, parce que ça permet vraiment d'établir une vraie distance entre ce qu'il est possible de faire ou pas. Par exemple, tu vois, dans le journal que je vous ai amené, ils sont pour vous pourrez les consulter, on a beaucoup de publicité. Sauf qu'en fait, les publicités, c'est ce qui permet en grande partie de financer le journal qui est rédigé. Et sauf que nous, on établit des règles très claires entre la publicité et la rédaction, parce que une personne qui paye une publicité pourrait penser qu'on lui doit un service parce qu'elle a payé sa publicité. Sauf que nous, ce sont des règles qui sont établies pour justement fixer les barrières et faire en sorte que la publicité n'empiète pas sur le travail rédactionnel. Donc c'est plein de petits ressorts comme ça qui, pour moi, ne font pas de notre métier quelque chose de contraignant, mais qui lui assurent une certaine liberté. Et je pense que c'est un peu la force de notre métier.
Est-ce que vous pouvez nous partager comment se déroule une journée de journaliste type ?
Ouais. Alors l'arrivée chez nous, elle se fait entre 9h, 9h15. Là, c'est le moment où on boit un café, parce que c'est hyper important dans la journée d'un journaliste de boire un café ou un thé, hein, on n'est pas sectaire. Mais c'est le moment où, en fait, on commence à faire un peu le point sur la journée entre nos collègues. Nous, il faut savoir qu'au Benin, on couvre une zone de 140 communes. Donc on part de l'Escrinet, on descend jusque dans la frontière avec le Gard. On a un peu la vallée du Coiron, et on monte jusqu'à Coucouron dans le plateau des choix. Donc c'est quand même une grosse zone, donc pas mal d'actualités. C'est là qu'on commence à faire un petit peu le point sur ce qui va régir notre journée à nous quatre. Ensuite, à 9h45, on a ce qu'on appelle une téléconférence, puisqu'en fait, nos chefs de départementaux sont basés à Valence, puisqu'ils gèrent les deux départements. Et en fait, il y a un représentant de chaque agence qui est présent à cette téléconférence pour faire un peu le point sur nos sujets dans les pages locales, mais aussi les sujets qui peuvent intéresser éventuellement les pages départementales. Donc là, il y a tout un travail d'échange avec toutes les personnes qui sont réunies à cette réunion par téléphone pour essayer de déterminer un petit peu ce qui est intéressant au-delà de notre zone de diffusion pour les pages départementales. Ensuite, une fois que c'est terminé, on a nos rendez-vous, on a des choses à écrire, on a des personnes à contacter pour organiser de prochains sujets. On obéit aussi à l'actualité parce que, par exemple, la colère des agriculteurs, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé plusieurs jours à l'avance. Mais ça, pour le coup, il faut arriver à se dégager du temps pour aller à leur rencontre, pour comprendre un peu leur mouvement. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, mais une journée type, en fait, elle n'existe pas vraiment dans notre journal. On a plusieurs tâches récurrentes à faire, mais finalement, entre les rendez-vous, les échanges qu'on peut avoir avec les gens ou autres, il n'y a pas une seule journée qui se ressemble depuis que je suis arrivé au journal il y a 4 ans, donc ça c'est plutôt cool.
Vous avez parlé de tâches récurrentes, mais quelles sont-elles ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a une boîte mail rédactionnelle. C'est-à-dire qu'on a une adresse de contact pour chaque journaliste. Mais en fait, nous, on est amené à bouger et donc, on a une adresse mail générique pour la rédaction d'Obena, peu importe les journalistes qui s'y trouvent. Donc, dans la journée, c'est elle qui va nous permettre de recevoir certaines informations. Donc, il faut les traiter, il faut estimer leur valeur. Il faut parfois se faire le relais de ce qui a été, de ce qui nous a été envoyé. Donc ça, c'est une de nos tâches principales. Après, on fait une tournée d'effets divers, c'est-à-dire que c'est pas le moment le plus sympa de la journée, mais on appelle nos gendarmes, nos policiers, nos pompiers pour essayer de savoir s'il s'est passé quelque chose d'important dans nos communes, que ce soit un incendie, un accident ou autre. Et puis après, on a la rédaction de nos papiers. Tous les jours, on est présent devant nos ordinateurs pour avancer sur nos sujets qu'on rédige. On cherche aussi de nouveaux sujets, et ça c'est une tâche qui est un petit peu difficile parce que il faut aller chercher ce que les gens ne nous apportent pas forcément comme information. Et donc voilà, si je devais résumer les tâches récurrentes de nos journées, ce serait celle-ci.
Est-ce que journaliste est un métier bien rémunéré ?
Alors, je peux parler de ma rémunération. Moi, je touche environ... alors on enlève les impôts, on enlève les tickets resto, voilà, c'est ce qui tombe sur mon compte tous les mois. Je touche environ 1 850 € par mois, net. Alors j'ai 29 ans, donc j'estime que je suis déjà chanceux parce que c'est un salaire qui est relativement confortable. Je suis dans une fourchette même plutôt haute en France, donc j'estime que c'est plutôt bien. Après, il faut le mettre en perspective aussi avec le nombre d'heures qu'on fait, c'est-à-dire que nous, les heures supplémentaires, on ne les compte pas. Voilà, c'est un métier qui est un peu particulier, qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc après, il faut aussi arriver à trouver l'équilibre entre ce que tu touches et ton travail pour estimer si tu es assez bien rémunéré. Mais moi, je dirais que je le suis suffisamment bien. Ouais.
Merci. Sam a une précision pour vous.
Mais vous avez évoqué votre salaire, mais vous n'avez pas une fourchette avec tous les membres de Dauphiné ?
Non, parce qu'en fait, ça dépend un peu de la hiérarchie. Je t'avoue que autant moi, j'ai pas de problème à parler de mon salaire, autant j'ai pas trop demandé à mes chefs combien ils touchaient. Mais disons que, allez, sans lui faire offense, je pense que notre rédacteur en chef, donc qui est la personne la plus importante au Dauphiné Libéré, doit toucher peut-être un peu moins de 3 fois mon salaire. Donc pour un poste qui est quand même très contraignant sur la durée, parce qu'en fait, lui, il est mobilisable tous les jours, c'est lui qui est un peu le garant de notre ligne éditoriale. Et donc, entre son poste et le mien, il y a énormément d'étapes. Donc il y a les chefs d'info, il y a les chefs d'agence, il y a les directeurs départementaux, et donc en fait, la grille salariale évolue en fonction de ces métiers-là. Et après, en fonction de l'ancienneté aussi, il y a des augmentations qui sont prévues. Donc là, par exemple, cette année... on va avoir une petite augmentation parce que dans le cadre de nos négociations, il y a eu une renégociation de nos salaires par rapport à l'inflation, donc je vais être un peu augmenté. En fait, ça varie énormément. Et il faut savoir que nous, donc je te parle d'une grille de salaire de la presse quotidienne régionale, mais par exemple, nos confrères de la presse nationale sont peut-être mieux rémunérés que nous, nos confrères de la presse hebdomadaire sont peut-être moins bien rémunérés que nous, nos confrères de la radio ont peut-être des salaires qui sont aussi un peu plus bas. Donc ça dépend vraiment de la zone géographique où tu te trouves et du métier que tu fais pour pouvoir estimer le salaire.
Merci beaucoup. Avant de passer à la deuxième partie de notre interview, profitons d'une petite pause musicale. Avec notre invité, le journaliste Anthony Gonzalez. Nous allons passer à notre troisième thème, qui s'intéresse aux médias dans lesquels vous travaillez.
Pourquoi le Dauphiné Libéré porte-t-il ce nom ?
Bonne question. Le Dauphiné Libéré, en fait, il a été créé en septembre 1945 par sept anciens résistants de la zone historique qu'on appelle le Dauphiné, donc qui est principalement basée du côté de Grenoble et qui ensuite descend un petit peu. Donc le Dauphiné Libéré, il correspond à son époque, c'est-à-dire que ça a pris la relève de certains journaux qui ont été considérés comme ayant eu une proximité avec l'occupant nazi. Donc ces journaux-là ont disparu et en fait beaucoup de journaux, comme dans pas mal de départements et dans pas mal de régions en France, ont pris le relais. Et donc il y avait cette notion de vouloir le qualifier de libéré tout en parlant de la zone géographique qu'il allait couvrir. Donc voilà, si tu prends mot par mot, le Dauphiné Libéré s'appelle comme ça par rapport à cette notion historique.
Quelle est la place du Dauphiné Libéré dans l'univers des médias en général ?
Alors nous, on est un journal de presse quotidienne régionale, c'est-à-dire qu'on traite de l'actualité de nos territoires avant tout. Donc on couvre 9 départements en France. Donc il y a l'Ardèche, l'Isère, la Drôme, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse. Si j'en ai oublié, vous me direz. Et en fait, nous, on a une place plutôt importante parce qu'on couvre du coup cette actualité-là, mais on a aussi des pages France Monde qui traitent de l'actualité nationale et internationale. Et on appartient à un groupe de presse qui s'appelle le groupe Ebra et qui en fait est le premier groupe de presse quotidienne régionale en France, puisqu'il possède des journaux du nord-est de la France, donc dans l'Alsace, jusque dans le Vaucluse. On est tiré à environ 260 000 exemplaires, donc on a un lectorat qui est quand même assez important. Et on a un site internet qui fait partie des sites de presse quotidienne parmi les plus consultés en France chaque mois. Donc effectivement, on a une place importante dans le quotidien de pas mal de personnes qui s'intéressent à l'actualité dans notre territoire.
À quel public votre journal est-il destiné ?
À tous ceux qui veulent nous lire, j'ai envie de te dire. Mais alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, nos lecteurs seront plus des gens de ces départements que j'ai cités. Mmh. parce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe près de chez eux, ils ont envie de savoir ce qui se passe sur leur territoire. Après, le site internet a énormément développé aussi notre manière de concevoir l'information. On fait de plus en plus d'informations aussi nationales et internationales parce que on estime que c'est aussi un peu notre rôle d'informer des lecteurs qui sont locaux mais qui peuvent s'intéresser à ces thématiques. Et on transfère aussi pas mal de nos sujets locaux dans ces pages départementales, nationales et internationales quand on sent que ça en vaut la peine pour mettre en avant aussi ce qui se fait de mieux sur notre territoire. Donc après, j'ai envie de te dire que même un Australien pourrait consulter le Dauphiné Libéré. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là et on essaye d'apporter de l'information qui puisse concerner le maximum de monde, que ce soit les jeunes, les plus anciens. Voilà.
Alors, nous allons passer à notre quatrième thème qui s'intéresse au rôle des journalistes dans la société. Je vais passer la parole à Mona.
Les journalistes ont-ils le droit de tout dire ?
Alors, je te dirais que non, parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a une charte qui nous fait quand même respecter certains devoirs et certains droits qu'on doit avoir en tant que journaliste. On n'a pas le droit de tout dire parce qu'il faut que ce qu'on dise apporte quelque chose au quotidien des gens qui nous lisent, qu'ils apportent quelque chose d'utile au débat public, selon moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que tout simplement, ma consoeur tout à l'heure l'a évoqué, mais il y a des choses qui peuvent être diffamatoires, c'est-à-dire porter atteinte à la réputation d'une personne. Donc on ne peut pas se permettre de tout faire. En revanche, nous on défend un droit, c'est le droit de pouvoir diffuser une information à partir du moment où elle est vérifiée et on sait qu'elle est sûre, malgré les pressions qu'on peut connaître. Ça a déjà existé, je ne l'ai pas vécu personnellement. Mais ça arrive, on a déjà reçu des pressions dans notre quotidien, dans d'autres journaux en France, et par contre on revendique effectivement plutôt ce droit.
Est-ce que vous avez un carnet d'adresses ?
Oui, j'ai un carnet d'adresses, et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, quand j'aurais pu quitter l'Ardèche parce que effectivement mon contrat se terminait et qu'on m'a proposé au Benat, j'avais d'autres opportunités, et je me suis dit que c'était intéressant parce qu'en 2 ans on a le temps de développer un petit réseau. Donc ça peut être des personnes du territoire lambda, ça peut être des élus, ça peut être des personnes qui travaillent dans les institutions. Et donc c'est important parce que c'est elles qui nous permettent aussi parfois d'avoir des informations. Elles nous permettent d'établir aussi des relations de confiance qui nous permettent déjà d'avoir une certaine fiabilité par rapport à l'info quand on la reçoit pour la première fois. Et donc c'est important d'entretenir ce réseau parce que c'est celui qui nous permet aussi de pouvoir traiter de sujets qu'on n'aurait pas pu, dont on n'aurait pas pu avoir d'écho autrement.
Est-ce qu'un journaliste est toujours objectif ?
Alors c'est intéressant parce qu'il y a toujours cette notion-là qui plane au-dessus de nos têtes quand on nous parle de notre métier. Mais j'aurais tendance à dire que en fait, l'objectivité c'est impossible au quotidien, parce que tu as une sensibilité, tu as un rapport à un fait d'actualité qui est forcément un peu biaisé de par ton expérience personnelle, de par les personnes que tu rencontres aussi. Par exemple, tu as un sujet global, ça peut être la colère des agriculteurs, et tu as un angle qui va avec. Donc l'angle, c'est ce qui va te permettre de définir un peu mieux la manière dont tu vas amener ton sujet. Donc ça peut être plein de choses différentes, tu peux aller sur un rond-point là où ils manifestent parce que tu as envie de comprendre pourquoi ils sont déplacés, tu peux tout simplement aller faire un sujet dans une ferme où un agriculteur a décidé de ne pas faire grève pour comprendre pourquoi lui, par exemple, il n'est pas allé sur un rond-point où il n'est pas allé bloquer la route. Et en fait déjà, la définition de cet angle-là, ça te fait perdre en objectivité puisque tu as décidé de ton propre chef de traiter le sujet de cette manière. En revanche, ce que nous, on prône, c'est qu'une fois que tu as fait ce choix-là, le plus important, c'est de permettre au lecteur de se faire un avis objectif sur la situation. C'est-à-dire que tu as beau avoir pris un angle, tu as beau avoir traité le sujet d'une certaine manière, il faut que tu aies suffisamment de matière pour que le papier, à la fin, devienne objectif et que la personne qui le consulte se fasse son propre avis en fonction de ce que tu lui as proposé.
Pour vous, dans la société, c'est important d'avoir des journalistes ?
Alors oui, c'est important, d'autant plus avec l'apparition des réseaux sociaux. Les fake news sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. Et nous, on revendique justement de proposer des informations vérifiées, fiables, alors qui sont très souvent payantes, parce que hormis le service public, il y a très peu de sites internet, de médias qui proposent de l'information gratuite et de qualité. Mais nous, on revendique tous les jours de sortir un journal à 1,50€ avec des informations qui sont vérifiées. Un autre élément dont on n'a pas parlé dans la charte et que j'ai pas précisé, c'est qu'on revendique aussi le droit de se tromper parfois. Et quand on se trompe, on fait un papier dans le journal pour dire qu'on s'est trompé. Parce que ça nous paraît important d'être honnête avec notre lecteur, de dire que voilà, on est des êtres humains avant tout et on s'est trompé, donc on revendique ça. Mais c'est pour ça que dans la société, c'est important, c'est que nous, on nous a souvent qualifiés de quatrième pouvoir. Alors c'est un peu compliqué comme notion, mais en France, on a une certaine liberté, on a une certaine indépendance qui nous permet de pouvoir diffuser de l'information comme on l'entend, sous couvert de notre charte. Et donc, c'est pour ça que je trouve que notre rôle est important dans la société.
Et cette émission est terminée. Merci à Anthony Gonzalez d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir écoutés.
C'était
La Voix des Jeunes.
Un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.